Cours de Dieu pour l'élévation de l'âme de Rechabia ben Esther de Chon Levracha. La question de David.
Qu'est-ce que la Torah peut nous apporter par rapport au Der Eretz?
Que la Torah peut nous apporter par rapport au Der Eretz. Der Eretz, en bon français, savoir-vivre. Littéralement, Derech, la voie de la terre. La terre, c'est les gens. La voie des gens bien. Il faut comprendre une chose super basique. Expose à Abraham Vital. Abraham Vital, c'est toute la Kabbalah moderne, mais il a écrit un livre qu'on peut lire sans être kabbaliste, s'appelle Sha'arei Kedusha, les portails de la sainteté. À la fin, et ça n'a pas été hélas imprimé, il explique comment atteindre Ruach HaKodesh. Qu'est-ce qu'il faut penser des noms kabbalistiques pour recevoir Ruach HaKodesh? Mais pour arriver à la fin, il faut d'abord faire tout ce qui est marqué avant. Et comment son livre, il explique qu'il y a quatre sources spirituelles par lesquelles le monde a été créé. Ce que nous voyons dans la mystique juive est basée sur des notions basiques, que tout ce qu'on a ici sur Terre correspond à une réalité spirituelle. Comme tu as le temple de Jérusalem, tu as le temple d'en bas, qui correspond au temple d'en haut. Une réalité spirituelle. Maintenant, tout ce que tu as ici sur terre ne peut exister que s'il a son correspondant spirituel. Alors, il y a quatre bases spirituelles qui ont leur correspondant terrestre. La terre, l'eau, le feu et l'air. T'as un feu spirituel, mais t'as un feu physique. C'est vrai que le feu, il est bizarre parce que sa réalité, c'est consommation de toute réalité. C'est la seule chose sur Terre dont la réalité est la destruction de réalité. Chacun de nous. Attends, je vais faire ça maintenant, j'ai oublié, c'est pas, bon, on va expliquer comment on fait ça. On peut calculer d'après la valeur numérique de son nom. Ouais, on peut savoir maintenant quelle source il est. T'as un qui est source terre, un qui est source feu, un qui est source eau, un qui est source air. Tu as des mélanges aussi. On disait ça à l'époque, on disait, Ram Ovadia était très contre cela. Mais il y en a qui, c'est comme ça qu'ils vérifient si un couple va bien ensemble. Par exemple, terre et eau, ça va très bien ensemble. Feu et eau, why. Ou un éteint l'autre, ou un évapore l'autre. Par exemple, moi et ma femme, on n'est pas du tout fait pour être ensemble. Et Baruch HaShem... Ça marche très très bien. D'accord. Pourquoi? Pour vous dire qu'il ne faut pas croire à ces trucs-là. C'est des trucs très très bancals. Ram Ovadia, il y a un livre qui parle de cela. Je crois qu'il s'appelait Chaim Verefoua Mirushalayim ou Marie Eladim. Il y a deux bouquins comme ça. Il les a jetés de sa maison. Pour bien montrer que c'est contre. Donc, en tout cas, pour revenir à notre sujet. Donc on a quatre bases. Maintenant, ces quatre bases correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu, qui sont dans la sainteté. Ces quatre bases, elles sont les bases donc, du monde, mais elles peuvent aussi être dans l'impureté. C'est quoi l'impureté, ces quatre bases? Ces quatre axes de mauvaise midote qu'il y a en nous. Quatre axes de mauvaise midote. La terre, c'est la force de gravitation, d'accord, la lourdeur, ça veut dire la paresse, la tristesse, pas envie de bouger, d'accord, la déprime, j'ai rien envie de faire, ou j'ai la paresse de faire. Comme la terre qui est statique, qui va vers le bas. Le feu, c'est la colère. Le feu. Colère et orgueil, qui monte sur quelqu'un. L'eau, c'est l'envie. Tout est à vote. Nourriture, femme, argent, pouvoir, toutes les envies. Et l'air, c'est la parlotte. Alors parler, blaguer. Il y a des fous, des nouvelles, d'accord, t'es au courant, machin, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Parlez surtout, être au courant de tout, surtout, partout, toujours, toujours.
Il n'y a aucun qui est bon.
Pardon?
Il n'y a aucun qui est bon des quatre.
Les quatre sont mauvais. Ça, c'est, j'ai dit, il y a les quatre noms de Dieu, t'as les quatre bases de la terre, et t'as leur correspondant en mal, qui sont les quatre axes des mauvaises midotes. Maintenant, un temps, je savais, mais j'ai oublié, hélas. Il faut imaginer le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Chaque lettre correspond à une de ces midas-là. J'oublie qui correspond à quoi. Et si tu peux le voir bien, tu vois distinctement, noir sur blanc, c'est marqué en flamme noire sur flamme blanche, tu vois les quatre lettres de nom de Dieu, distinctement, c'est-à-dire que tu es réparé au niveau de ces quatre midot, qui sont la base de tout. Et quand tu vois une lettre que tu n'as pas bien très bien voir, ça prouve que là, il y a du travail à faire encore, tu n'es pas encore OK, mon cher ami. Je ne sais plus comment. De toute façon, on se connaît, hein. Il n'y a rien qui va. Je suis d'accord avec toi. C'était quoi le sujet? Ader Eretz. Maintenant, comme explique Abraham Vital, et le Rav Volve reprend ça aussi, il dit, les 613 mitzvot sont plantées dans ces quatre bases. Comme si on aurait un terreau, d'accord, la terre, et tu plantes dedans les mitzvot. Donc, si ces bases-là, elles sont réparées, elles sont bonnes, c'est-à-dire que tu n'es pas paresseux, tu n'es pas orgueilleux, tu n'es pas envieux, tu n'es pas parleur, alors les mitzvot peuvent pousser. Sinon, elles ne peuvent pas pousser. Ça, c'est le principe profond de ce que dit Chazal. On dit Chazal, une petite phrase, « Derech Eretz kadma la Torah ». Le savoir-vivre passe avant la Torah. Torah, c'est les mitzvot. Savoir-vivre, c'est comment vivre. Comment vivre de façon juste. Quelqu'un qui est paresseux ne peut pas vivre comme il faut. Il fixe un rendez-vous, il n'arrive pas à l'heure. Bon, on rend un service, il dit, regarde les enfants. Fais ça, et Nicolas. Je ne sais pas comment on dit en français, je n'ai pas la force. Je suis fatigué, non? En hébreu, c'est tous les enfants disent « Elle est cohare, j'ai pas la force ». D'accord, c'est la phrase que tu entends le plus deux fois par jour. En français aussi, j'imagine. J'ai pas envie, j'ai pas la force, d'accord. Paresse, la flemme. La flemme, il dira pas parce qu'il sait que c'est négatif. J'ai pas la force. C'est-à-dire que j'aurais bien voulu, mais j'ai pas la force. Je suis malgré moi. Comme Esav. Esav, il dit « Kiaïef anokhi ». La première fois où Esav parle dans la Torah, la première fois, il dit « Kiaïef anokhi », car je suis fatigué. « Aliteni, abreuve-moi ». Gave-moi de ce rouge-rouge car je suis fatigué. C'est la terre, le feu, l'orgueil. Alors, qu'est-ce qui va nous, par exemple, nous empêcher de dire des mitzvot? L'orgueil, beaucoup. L'orgueil, par exemple, il ne faut pas être vindicatif, pas avoir rancune, pas vouloir se venger. Quelqu'un qui m'a fait du mal, je l'en veux. La colère, c'est interdit. Si je suis orgueilleux, je serai en colère, c'est forcé, ça marche ensemble. Beaucoup d'autres mitzvot sont impossibles si quelqu'un est orgueilleux. Le shalom. Pour vivre en shalom avec les gens, il faut savoir s'écraser. Comme j'expliquais aux Khatanim, donc ils vont se marier, pourquoi Dieu a créé le mariage? Un homme rencontre une femme, il s'aime, c'est beau, les papillons, les fleurs. Pourquoi Dieu a fait tout ça? Pour apprendre à s'écraser. C'est craint. C'est pas romantique. C'est pas ce qu'on raconte sur la choupa au Khatan et la Kala, mais c'est la réalité. Apprendre à être combien, Chazal disent, comme Iskopa Nidreset, comme le seuil de la porte, que tout le monde marche dessus. Tu te mets sur la porte, tous les gens qui marchent, ils passent, ils te marchent dessus.
Mais avec sa femme, si avec sa femme au bout d'un moment,
tu as posé la même question il y a trois mois en me disant je ne vais pas être un pigeon. À la même place, tu étais, elle est la même chose, on ne va pas être un pigeon.
Oui, non, mais d'accord, mais là, s'écraser, c'est.
Alors, je vais expliquer. Je vais expliquer. Tu as raison. Tu as raison que je dois bien préciser de quoi il s'agit.
Si sa femme, elle n'aime pas ça, en fait.
Alors, regarde. Non, je vais expliquer. S'écraser, ça veut dire. Ne pas réagir. Quelqu'un m'a fait du mal, quelqu'un m'a manqué de respect, quelqu'un a fait un truc qui est franchement honteux, d'accord ? Ma femme qui s'énerve, tout bêtement. Je lui dis un truc, bon, j'ai rien dit. J'ai une réaction, ça m'a fait un petit quelque chose. Là, c'est écrasé. Je me tais. Je cède.
Tu dis rien ?
Attends, rien. Rien.
Tu lui réponds quoi ?
Attends. J'ai vu le principe, après on va aller sur le terrain. D'accord ? Là, c'est écrasé complètement. Ça ne veut pas dire que je dois accepter tout ce qu'elle dit. Quand la situation sera plus calme, je vais expliquer gentiment qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Ce n'est pas une réaction. La réaction, ça vient de là. Quand je réagis de là, son là aussi est là. Il faut comprendre. Il y a en nous des fauves, un lion. Moi, je suis un lion, elle, c'est une panthère. Maintenant, ils dorment. Donc, si, quand je parle, c'est l'être humain, l'image de Dieu qui parle, alors elle réagit avec son image, son être à l'image de Dieu aussi. Mais quand c'est une réaction, pas de l'image de Dieu, mais de l'animal, du lion, elle s'écrie aussi fort que moi, si pas plus, la panthère. D'accord ? Aussi fort. Maintenant, quand je réveille l'animal, ça réveille l'animal. Donc, elle a réveillé son animal. Alors, si je suis un homme puissant, je dis au lion, tais-toi. Tais-toi, écrase-toi. Croise-toi. Voilà. On attend que la panthère se calme. Et là, avec la tête, à l'image de Dieu, je parle à l'autre. Image de Dieu. Le jour où tu t'es énervé, oui, je m'ai énervé. Bon, écoute, c'est pas grave, c'est vraiment pas un problème. Maintenant, parlons du sujet. Qu'est-ce que tu penses? Comme ci, comme ça, voilà. Et ça, c'est tout à fait bien. Donc, je ne sais pas que je dois accepter tout ce qu'elle dit. Mais je dois m'écraser lorsqu'il y a un réveil des pulsions animales orgueilleuses. On a touché dans mon orgueil. Là, il y a un travail de Hanava, d'humilité, ensof, infini. Infini. Rien. Tu t'écrases. La Torah, elle a vanté Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, tu n'as pas eu un homme aussi grand sur terre. Il n'y a pas eu. Jusqu'à Mashiach, Baruch Hashem qui vient. Très bientôt, ben j'arrête ça. Elle a inventé sur quoi? C'était un sage, connaissait toute la Torah. Tout ce que les sages d'Israël vont dire plus tard, il le savait. C'était un guerrier. Il monte sur la montagne, il prie à Hachem, et on gagne la guerre contre les pires, contre Amalek. Il est courageux, il va contre Pharaon, il prend avec lui les 70 sages d'Israël, tout se démis en route, ils n'ont pas eu le courage, lui, il rentre tout seul avec Aaron, il rentre chez le Pharaon. La Torah ne parle pas de ça. Elle dit une seule chose en tant que qualité de Moshe Rabbeinu. Vaish, Moshe, Anav, Me'od, Me'kol, Adam, Asher, Pnei Adama. L'homme, Moïse, est humble plus que tous les êtres humains qu'il y a sur la planète Terre. Humble. La qualité numéro un que la Torah vante, et c'est celle par laquelle elle a vanté Moshe Rabbeinu, l'humilité. C'est quoi humilité ? S'écraser. J'ai pas d'orgueil, j'ai rien. Attends, je ne veux pas dire que j'accepte tout, on doit aller tordu dans ma maison. Non, je peux aussi dire ce que j'ai à dire, mais je ne dis pas parce qu'on a touché mon orgueil. Je dis ça parce que d'après la justice, d'après ce qui est droit, ce qui est vrai, ce qui est raisonnable de faire, c'est comme ça qu'il faut agir. Et quand je suis énervé, je ne m'exprime pas. Ça peut être dangereux, je peux dépasser les limites. Quand on est énervé, on ne peut pas. Des fois, tu as raison dans ce que tu dis, mais vu que ça vient des nerfs, ça ne va pas. Un enfant, il fait une bêtise. Si t'es calme, ok, tu peux le punir des fois, c'est nécessaire, tu peux me lever la voix. Mais si maintenant t'es énervé, tu vas exagérer. Et lui, il sent très bien l'enfant. C'est pas le père éducateur qui est là maintenant pour me corriger. C'est une bête énervée. Alors il reçoit le coup, il est trop petit. Après, il va donner le coup à ses copains à l'école. Comme son papa, l'exemple qu'on lui montre. Mais s'il voit au contraire, il fait une grosse bêtise, et son père, il dit rien, au contraire, il sourit. Et c'est pas qu'il n'est pas énervé, il est énervé. Il dit, bon, allez, on réglera ça après. Et après, il dit, bon, écoute, mon cher ami, tu as fait une bêtise, tu reconnais, je dois te mettre, je dois maintenant te corriger, n'est-ce pas? Bon, tourne-toi, pique. Il a compris qu'il devait recevoir une punition, il a compris, c'est logique, c'est bien, c'est raisonnable, il est même content quelque part. Il comprend, ça c'est éducatif. Idem dans tous les domaines. Donc il faut ici travailler l'orgueil. Bon, c'est un boulot énorme, la colère, etc. La colère provient de l'orgueil. Si quelqu'un maintenant, il n'a pas à gérer ça en lui, comment tu peux lui dire, tu vas maintenant avoir du savoir-vivre, tu ne sais pas vivre, tu ne peux pas vivre en communauté, ça ne marche pas, pas en famille. Aujourd'hui, pourquoi tellement de problèmes de Shambhait ? À cause de ça. Les gens n'ont pas été habitués à travailler sur eux-mêmes, ils ne savent pas réfréner leurs pulsions de colère, d'orgueil, etc. Et ils ne savent pas s'écraser, ils ne supportent pas, ils ne supportent pas. Depuis qu'ils sont petits, on leur donne tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tu reçois. Jour du mariage, maintenant tu n'auras plus rien, mon cher ami. T'es écrasé. Il ne tient pas le coup. Il ne tient pas le coup. Lui croit que maintenant, depuis le mariage, il sera aux petits oignons. Non seulement maintenant, j'avais ma maman, ma copine, ma jardinière d'enfants, d'accord, tout le monde s'occupait de moi. Maintenant, j'aurai ma femme. Elle aura 10 métiers. Femme, maman, copine, cuisinière, repasseuse, boulangère, tout ce que tu veux. Aux petits oignons. Deux mois après le mariage, je lui dis, ça va pas, c'est pas assez. Erreur. Il y a erreur dans le contrat. Moi, je voulais profiter. Mon cher ami, t'as rien compris. C'est un esclavage. T'écraser. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé la femme. L'homme et la femme. Les deux séparés pour apprendre à s'écraser. Et si ça ne marche pas, c'est terrible. C'est terrible. La femme, elle est digne. Alors, si elle ne reçoit pas, si tu ne comprends pas avec elle, elle sort les griffes.
Il n'y a pas des femmes qui s'énervent encore plus quand on dit rien ?
Oui, c'est ce que je vous dis, c'est
oui,
ça ?
Absolument. Très bien. C'est très bien. C'est ce que tu voulais dire auparavant. J'ai dit qu'on en parlerait après. Réponse. Ce dont je parle, il faut lui en parler. Il faut expliquer que tous les deux, c'est normal, on n'est pas des grands tzadikim, donc on risque de temps en temps de s'énerver, de ne pas être d'accord, et il y a le risque de l'escalade. Tu lui dis un truc pas très sympa, ping, elle te répond, toi tu t'es vu, t'es comme moi et tes parents aussi. C'est un pong. Pas de rapport, mais c'est comme ça. Toi, tu dis, mais quel rapport ?
Oui.
Tu t'énerves. Ah, tu me fais un ping-pong. Alors, c'est un bel ping-pong. Attends, je te fais un tennis. Toi et toute ta famille. Alors, toute ma famille, toi et ta tête de... Elle te dit déjà un gros machin pas beau, d'accord ? C'est le tennis. Après, on passe à la pétanque. Après, au bowling. Après, au missile solaire. À finir les scuds et la bombe atomique. Escalade. Et tout le monde regrette. Mais parce qu'on joue maintenant, c'est plus la tête, c'est maintenant, chacun a été touché, donc il réagit, et tac, et l'autre il dit comment après, ça va très vite, chez Michemort.
Comment se maîtriser quand on parle de nos parents, par exemple? C'est extrêmement dur, c'est impressionnant, c'est pas possible, c'est impossible.
Ça dépend de l'éducation qu'on a reçue, ça dépend du background de lequel on vient. Il y a des gens, ça ne fait absolument rien, tes parents... Voilà. Ce que tu veux. On comprend que la personne est là en face, elle est énervée, c'est pas... Il faut savoir, s'écraser, ça veut dire que chaque fois que je suis touché, je passe outre. Pas grave. Et je vais dire un truc très profond. Le monde va très mal aujourd'hui. On est au bord du gouffre. Ça va être total, terrible. Qui va survivre ? Hachem va juger. La justice d'Hachem est extrêmement rigoureuse. Rigoureuse. Il faut que je trouve quelque chose qui va permettre que Dieu ne va pas me juger de façon rigoureuse. Personne ne peut dire je mérite. Personne ne mérite. On a tous des gros problèmes. Il faut que je trouve maintenant une solution qui permettra que Dieu va être rahamim, va être miséricordieux avec moi. Quel est ce moyen ? Quand moi je peux avoir une réaction d'après la justice rigoureuse, tu as parlé sur mes parents, et bien moi maintenant, je ne parle pas pendant deux jours. Dîne, tu as peut-être raison. Mais raison, c'est din. C'est raison, ça veut dire c'est la justice. Tu dis, écoute, t'as pas sur mes parents, ça peut me toucher, mais je te pardonne, franchement, je t'aime comme avant, il n'y a aucun problème. C'est une gvoura, c'est une puissance énorme. Chez toi, il y avait deux parties. Une partie qui dit, mon cher ami, t'as raison, vas-y, rentre-lui dedans. Là, t'as raison, c'est la raison, c'est ce qu'il faut. Je ne suis pas un pigeon, d'accord, comme tu vas dire, je ne suis pas un pigeon. Une fois, il y en a qui dit, hey, laisse passer, sois miséricorde. C'est vrai que tu as raison, laisse passer. Comme tu agis, comme on agit avec toi dans le ciel. Exactement. Et d'habitude, c'est même une épreuve qu'on va pouvoir commenter, agir, pour avoir que tu reçois la trecha. Si ben, mais t'envoies une trecha, et t'es attrapé la justice. Dieu a la même chose. Dieu, il est miséricorde, lui. Mais il a créé une chose qui s'appelle Midat Adin. La tribu de rigueur qui vient, qui dit Hachem, t'as lui, allez, rentre-lui dedans. Il a mis, regarde ce qu'il a fait, tac, 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 tous ces péchés-là, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Ton Dieu, il est juste aussi. Alors, la tribu de justice vient lui dire, vas-y, il doit être juste. L'argument qu'il peut donner compte, t'as raison, d'après justice, t'as raison. Mais lui-même, regarde, il ne fait pas la justice. Il est miséricordieux. Alors, moi, comme il. Donc, il mérite maintenant qu'il joue avec lui aussi la même façon d'être qui est miséricorde. Et là, on peut passer. Notre seule chance de passer, s'écraser. En sof, sans fin. Je répète, c'est pas que je dois tout accepter. Je peux après en parler, ok, on va en... Mais au niveau des pulsions, et Dieu aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la plus grande mida. Ça, c'est le feu. Après, qu'est-ce qu'on avait? L'eau, l'envie. Alors là aussi, quelqu'un qui n'est pas réparé à ce niveau-là, il n'a pas à savoir vivre, il ne pourra pas faire la Torah. La Torah te dit maintenant, manger kasher. Tu es dans l'avion. Tu n'as pas commandé...
Glatt.
Mais c'est El-Al. Alors tu as un kasher du Rav Sruissa de Lod. Pas du cochon. Mais c'est, le rabbi a dit, c'est pas cachère, c'est pas génial. Franchement, pas génial. J'ai faim. Alors, l'animal en dedans, qui a envie, il dit, bon, c'est pas interdit. Puis tout le monde mange, puis d'ailleurs, voilà, il y en a là-bas, barbu qui mange aussi. Allez, je serai une bonne bracha au moins. Et puis un qui met de côté, puis c'est tout.
Non mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Parce que moi par rapport à ça, moi je pense que je peux me travailler tout ça, c'est très facile pour moi je pense. Mais le fait de s'écraser par rapport quand on t'a...
Attends mon cher ami, il y a d'autres envies aussi, Il y a d'autres envies, les femmes. Tu vas te marier, Béat Hachem. Bientôt, Béat Hachem. Maintenant, tu vas dans la rue et il y a une bombe qui passe, qui n'est pas ta femme.
Alors regardez ou pas.
Et tu es avec ta femme. Elle ne regarde pas la bombe, elle te regarde toi. Elle voit tes yeux, trinc, trinc. Ben, t'es mort.
Ça existe une autre bombe à part notre homme.
Hein?
Ça existe une autre bombe à part notre homme.
D'accord.
Quand tu auras 60 ans, elle aura 59 ans, et tu auras. C'est les bombes, elles ont toujours 20 ans. C'est marrant, hein? La nôtre, on avait une bombe, mais elle prend de l'âge. Et les hommes regardent les femmes, ben, j'en ai vu moi des 80, 90, ils ont les yeux bien en face des trous, ça ne change pas. Hein. Il reste même des serres tordues. Alors, on parle maintenant de savoir-vivre, le minimum, mais c'est un travail, de ne pas regarder. C'est un grand travail.
Les femmes, elles ont conscience qu'on a ce vraiment pourquoi ?
Elles ne savent pas ce que c'est.
C'est pas un gros sujet à discuter. Rien que le fait qu'on peut le vouloir.
Tu me rappelles maintenant ce que j'étais en train de parler. Je reviens. N'oublie pas ta question sur les yeux, etc. Donc on parle avec sa femme. Je dis pour le cas maintenant où elle veut que tu répondes. N'est-ce pas? J'ai pas répondu. Donc dans les moments où on est en bonne relation, tout va très bien, on va établir des stratégies de qu'est-ce qu'on fait dans une situation de pression. Tu lui expliques. Écoute. C'est dommage que lorsque tu es énervé, je te réponde. Parce que ça va m'énerver. Moi, je ne vais pas me retenir. Je vais te répondre. Donc, c'est ping-pong, tennis, pétanque, machin, etc. Bombe atomique. Dommage. Donc, on décide que lorsqu'on sent qu'on est énervé, on ne répond pas. Pour le bien de la famille. Parce que je te répondrai. Je te répondrai comme il faut tout. Mais pas quand je suis en situation où je risque de m'énerver parce que tu es énervé, toi. Quand tu es énervé, forcément, ça m'énerve rapidement, moi aussi. J'ai aussi un fauve en moi, un lion. Donc quand c'est la panthère qui s'exprime, le mot lion, je peux me retenir, mais je ne suis pas Goldorak, d'accord? Donc le lion, il va s'exprimer rapidement, et là, on part en cacahuète. Donc on fixe maintenant que dans tous les cas où on sent que la pression, elle monte, on décroche tout de suite. C'est le feu. Bien que tu veux que je réponde, ben non, c'est comme ça.
En ce moment, ça apporte pas une sorte de presque haine à la fin. Envers notre femme, peut pas amener une haine à la fin envers notre femme. Ben, je me tais.
Mais beaucoup plus de haine que quand elle m'a traité tous les noms. Toi, toute ta famille, c'est pas, tu pardonneras jamais.
Oui, mais c'est quand même, ça apporte un mot
à c'est quoi. Ça apporte. Hein? En fait, ouais, après, on a un sentiment par rapport à ça.
Regarde, d'abord, tu as un exemple. Elle voit que tu te retiens et que tu ne réponds pas. D'abord, tu montres l'exemple. Parce que si tu vas réagir, si tu sais la calmer sur place, très bien, mais comment on fait pour calmer quelqu'un ? Écoute, je vois que tu es énervé, ça sert à rien maintenant de parler, tu es dans les émotions, donc on parlera bientôt. En attendant, on parle d'autre chose. Alors, comment c'était ? Voilà, tu changes le sujet. Non, je veux qu'on en parle maintenant.
Oui.
Mais je t'explique que si on en parle maintenant, ça sert à rien parce que tu es énervé, regarde comme tu es énervé, c'est pas raisonnable. Il faut parler beaucoup de cela dans les moments qui sont bien. Il faut répéter les choses sans cesse. Quand on arrive maintenant en situation véritable d'émotion, qu'elle sache déjà qu'on a tellement parlé du sujet qu'elle reconnaît maintenant qu'effectivement, c'est plus raisonnable. Bon, c'est un apprentissage. En tout cas, c'est beaucoup mieux. Maintenant, tu auras de la haine. Ben non, à toi de travailler, pas avoir de la haine. Toi aussi, tu t'énerves des fois. Donc, tu peux comprendre qu'elle s'énerve, tout à fait légitime. On n'est pas des saints. On va devenir des saints, Baruch Hashem. Ça, c'est un travail à faire, c'est un travail. Donc, ça, c'est pour ne pas répondre. Maintenant, ou non, les femmes ne comprennent, comme nous ne comprenons absolument pas l'épreuve que les femmes ont sur la tsniout. La tsniout, la pudeur, d'accord ? Les femmes religieuses sont censées, enfin, toutes les femmes sont censées s'habiller pudiquement. Les femmes religieuses le savent et le font. Par exemple, une des lois importantes dit qu'on ne doit pas voir tout ce qui est plus bas que le trou qu'il y a ici. Ni les clavicules, ni les petits os qu'il y a de côté. Vous voyez que chez vous, la plupart de chez vous, c'est fermé. Alors qu'il n'y a franchement rien à voir. Je vous montre ici, c'est pas excitant du tout. Et les femmes qui devraient le cacher, et qui sont raisonnables, pensent, comprennent qu'elles ne veulent pas que des hommes regardent, devraient le cacher, c'est extrêmement dur pour la majorité des femmes orthodoxes de fermer ici comme il faut bien. C'est très rare, très rare. Et c'est tout à fait incompréhensible, irraisonnable. Il ne faut pas qu'on voit, on peut voir le trou pas plus bas, et on ne peut pas avec la clavicule. C'est-à-dire que si elle a un truc qui est fermé en V comme ça, là, ça va. Si c'est ouvert et qu'on voit la clavicule, ça ne va pas. Ou ici, derrière, sur les côtés, il faut que ça, l'endroit où un collier, quand on met un collier, l'endroit où le collier s'arrête. Il ne faut pas que ça aille plus bas que ça. Très rares les femmes qui respectent cela. Extrêmement rares. Et sont orthodoxes. Elles le savent. On le répète. Il y a ces rares-là que nous, on ne comprend pas. Rajouter 3 cm à une robe. C'est pas compliqué. J'ai le tailleur. C'est pas compliqué. C'est pour elles l'Everest. Donc, elles doivent comprendre que, comme nous ne comprenons absolument pas leur Yetzerara, elle doit comprendre que nous, c'est un grand Yetzerara. Et que pour un homme, aller dans la rue sans regarder des femmes, c'est être presque Rabbi Akiva. C'est très, 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 très difficile. C'est 1 sur 100 religieux qui arrive à le faire. Je suis gentil quand je dis ça. Religieux sérieux. Avec des ratés par-ci, par-là, etc. Voilà. Ken.
Il y a un piège en Israël, c'est que quand on est par exemple, dans des quartiers religieux, ben, c'est que des femmes religieuses. Est-ce que pas de mater, quoi, mais juste de regarder le. Je croise le regard par curiosité presque, est-ce que c'est interdit
Si tu n'as aucun profit, c'est permis.
Si tu n'as aucun profit.
Mais croiser un regard, c'est chaud. Pourquoi tu croises un regard ?
Une vie de séminaire, c'est interdit par exemple.
Ah
ouais. Une séminaire,
c'est. C'est
cachère. Non, c'est pas cachère du tout. Tu parles.
Et elles ont le droit de nous regarder ?
C'est pas bien. C'est pas grave comme nous, mais c'est pas bien non plus.
C'est le plus dur, c'est comme ça.
Pardon ?
Je pense que quand on arrive ici, on peut faire attention à ne pas regarder une fille mini-jupe et tout ça, mais comme on se dit, voilà, ces filles-là, ça peut devenir des filles avec qui on peut se marier, alors on
mais tu la vois où ? C'est ça que je comprends pas. Non, mais comment tu la vois ? Je ne comprends pas. Tu vas dans la rue, tu regardes. Ça n'existe pas un truc pareil maintenant. Dans les mariages, machin, il y a une mechitza. Alors, où tu l'as vu ?
Ah
ouais, t'as envoyé une photo, hein ?
Je Faut faire attention des fois.
Eh ben on regarde pas, messieurs. Il faut pas regarder. On ne cherche pas sa femme dans la rue. Voilà. Ni au mariage, ni en chaleur barotte, ni rien du tout. Cherche sa femme chez le rabbin avec la barbe. Voilà. Lui te donnera notre chaîne, il te proposera des choses qui te. Voilà, peut-être même.
Est-ce que ça c'est sujet à dispute sur cette chaîne? Parce que elle, le médecin,
oui.
Elles sont dans la CIO,
oui.
Elles sont vers elle-même. Alors que nous, c'est une autre femme qu'on regarde.
Non, tu peux lui dire de même que si maintenant elle n'est pas signée, elle attire le regard des hommes, tu peux lui dire que tu n'es pas content non plus. C'est la même chose.
Il faut utiliser quoi, son argument contre elle pour nous sauver la vie.
Tu lui dis, écoute, ça y est, etc. On fait notre mieux, toi non plus, tu n'es pas parfaite. Voilà, on se bat. Ok, messieurs. Donc reste encore la parlotte, qui est aussi. Par le savoir-vivre. Par là, c'est quoi? La chonara, mensonge, flatterie, rigolade, trop, type qui rigole toujours, d'accord? Ces choses-là font aussi que tu n'es pas un type, d'après la Torah, insersable, comme ça on dit, insersable dans la communauté. Donc, est-ce le savoir-vivre avant la Torah? Une fois que tu as ça, alors, c'est beaucoup plus facile de faire toute la Torah. Baruch Adonai, Amen.